Bonjour, Régis Coulanges. Je suis conseiller national d'Amnesty International pour la région PACA et je vous propose une émission sur les droits humains et l'action d'Amnesty pour le respect de ces droits. Cette émission s'appelle « Pour la dignité ». Tous les derniers lundis de chaque mois, de 16h30 à 17h30 sur Fréquence Mistral 99.3.
Sur Fréquence Mistral 99.3. Bonjour Régis.
Bonjour Olive.
Et bonjour Martine, et bonjour, bonjour Fred. Et voilà, c'est déjà l'émission pour la dignité qui commence tout de suite.
Oui, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, émission spéciale puisque nous avons une invitée, Martine Mir, qui est une jeune retraitée qui est membre d'Amnesty et du groupe de Digne depuis pas mal d'années maintenant et qui viendra un peu présenter son action. Ensuite, nous parlerons du Qatar et notamment de la Coupe du Monde en préparation. Ensuite, d'une guerre oubliée, celle du Yémen, un an après l'intervention militaire. On reparlera à nouveau de l'accueil des réfugiés, notamment les réfugiés qui sont bloqués en Grèce. Il y a une pétition en ligne à ce sujet. Et puis, on terminera par des bonnes nouvelles et puis par les activités du groupe de Digne. Voilà le sommaire. Alors, bonjour Martine.
Bonjour.
Voilà, alors tu es, donc, je disais, jeune retraitée. Peut-être, voilà, tu pourrais te présenter et dire un peu ton action au sein d'Amnesty International et à Digne en particulier.
Oui, alors très jeune, j'ai ressenti le besoin de me sentir utile à la société, d'appartenir à une association caritative. Ce n'est que tardivement, toutefois, que j'ai pu m'engager. Ma fille aînée et moi avons rencontré les membres du groupe AI au Forum des associations en 2002. Le contact a été chaleureux, nous avons été très bien accueillis. Ça nous a encouragés à assister à une réunion mensuelle et le courant a passé immédiatement et nous sommes devenus membres très rapidement.
Voilà, tu pourrais dire un peu ton rôle au sein du groupe d'Amnesty ?
Alors mon rôle, je suis la trésorière du groupe donc et mon travail en fait c'est d'enregistrer sur un logiciel informatique toutes les opérations financières liées à notre travail en tant que groupe, les courriers, les manifestations, les cotisations à e-France et le déplacement, etc. Les comptes du groupe sont contrôlés une fois par an en fin d'année lors de la validation de la comptabilité par le service financier d'AI Paris. Et tous les 2-3 ans par des audits indépendants.
Très bien. Donc le fait qu'il y ait un logiciel fait qu'à Paris, ils ont accès à tous les comptes de tous les groupes.
C'est ça, en direct. En fait, ils peuvent consulter les opérations enregistrées à n'importe quel moment. C'est en direct, directement.
Voilà. Comme Amnesty est une association reconnue d'utilité publique, elle se doit d'avoir des comptes tout à fait en règle et contrôlés.
C'est ça. Donc après, les sommes récoltées servent à payer notre cotisation annuelle à Paris, à e-Paris. Le montant de la cotisation est de 750 euros par an. L'argent sert à organiser des manifestations tout au long de l'année, à payer les timbres et les enveloppes des courriers que nous envoyons, à payer les déplacements des membres aux assemblées générales régionales et nationales. Et puis, s'il nous reste de l'argent en fin d'année, nous faisons des dons à différentes associations africaines, l'association Primo Levi, etc.
Oui, il faut dire que ce sont, comme l'argent qui nous est donné pour Amnesty International, nous ne pouvons pas donner, en tant que groupe d'Amnesty International, l'argent à n'importe quelle association. Il faut que l'association soit liée à Amnesty. Comme, par exemple, Martine parlait de Primo Levi, qui est une association qui vient en aide aux réfugiés qui ont été torturés. Et c'est une association qui a été créée en partie par Amnesty International, et donc qui est très liée à Amnesty. Et on peut aussi donner pour le développement des sections en Afrique, des sections d'Amnesty. Voilà, donc il est logique que les gens donnant à Amnesty, l'argent aille à Amnesty, que ce soit le groupe en France, à l'international. Voilà. On va maintenant écouter une chanson de Renaud. Alors pourquoi Renaud ? Parce que bon, il revient et ça fait vraiment plaisir. Et puis bon, j'ai choisi une chanson, c'est un peu personnel parce que comme je vais être grand-père dans un mois et à nouveau grand-père dans deux mois, je la dédie à ma fille et à ma belle-fille.
Elle a mis sur le mur, au-dessus du berceau, une photo d'Arthur. Rimbaud, avec ses cheveux en brosse, elle trouve qu'il est beau dans la chambre du gosse. Bravo, déjà les petits anges, sur le papier peint, je trouvais ça étrange. Je dis rien, elles me font marrer, ces idées loufoques, depuis qu'elle est en cloque. Elle se réveille la nuit, veut bouffer des fraises, elle a des envies balèzes. Moi, je suis aux petits soins, je me défonce en huit pour qu'elle manque de rien. Ma petite, c'est comme si je pissais dans un violoncelle, comme si j'existais plus. Pour elle, je me retrouve planté tout seul dans mon froc depuis qu'elle est en cloque. Soir, elle tricote en buvant de la verveine. Moi, je démêle ses plottes de laine. Elle use les miroirs à se regarder dedans, à se trouver bizarre tout le temps. Je lui dis qu'elle est belle comme un fruit trop mûr. Elle croit que je me fous d'elle. C'est sûr, faut bien dire ce qui est. Moi aussi, je débloque depuis qu'elle est en cloque. Faut que je retire mes grolles quand je rentre dans la chambre du petit rossignol. Qu'elle couve, c'est que son petit bonhomme qui arrive en décembre, elle le protège comme une louve. Même le chat pépère, elle en dit du mal sous prétexte qu'il perd ses poils. Elle veut plus le voir traîner autour du paddock depuis qu'elle est en cloque. Promène mes mains l'autre côté de son dos, je sens comme des coups de poing. Ça bouge, je lui dis t'es un jardin, une fleur, un ruisseau. Alors elle devient toute rouge. Parfois ce qui me désole, ce qui me fait du chagrin, quand je regarde son ventre et le mien, c'est que même si je devenais pédé comme un phoque, moi je serais jamais en cloque.
Voilà, très belle chanson de Renaud. Nous allons maintenant parler du Qatar. Amnesty International a sorti un rapport qui s'appelle la FIFA hors jeu, donc la Fédération Internationale de Football. En effet, la Coupe du Monde de Football a été donnée au Qatar en 2022. Et ce pays fait construire à tour de bras des infrastructures par des travailleurs migrants en provenance d'Asie du Sud-Est. Nous avons enquêté sur un chantier de rénovation de l'un des stades de la Coupe, le Khalifa International Stadium. Et les conditions de vie de ces migrants y sont désastreuses. Elles contrastent de manière choquante avec celles des footballeurs qui se retrouveront sur le terrain en 2022. Les multinationales qui travaillent sur place et les pays de leur siège ne doivent plus faire l'autruche. Alors la litanie des abus subis par la plupart des travailleurs au Qatar est accablante. Logements sordides surpeuplés, versement de sommes considérables à des recruteurs dans leur pays d'origine pour obtenir un travail au Qatar, tromperie quant à la rémunération ou au type de travail offert, non-versement ou paiement en retard des salaires, non-délivrance de permis de séjour par des employeurs, ce qui fait courir le risque aux migrants d'être arrêtés et expulsés en tant que fugueurs, Des employeurs confisquent les passeports des travailleurs et ne leur donnent pas de permis de sortie du territoire. S'ils se plaignent de ces conditions, les travailleurs sont menacés par leur employeur. De telles pratiques constituent une forme de travail forcé au terme du droit international. Ce type d'abus a pourtant été largement documenté depuis 2010, mais la situation change peu ou pas. Et la FIFA ne fait pas grand-chose pour y remédier. Il faut savoir que les travailleurs migrants représentent 90% de la main-d'œuvre au Qatar. On met en cause la responsabilité des entreprises, notamment Midmac Six Construct, dont l'une des sociétés mères est belge, et l'opérateur principal sur le complexe sportif où se situe le stade Khalifa. Ce groupe sous-traite des opérations à d'autres entreprises. Les abus identifiés dans ce rapport ont notamment eu lieu chez des fournisseurs indirects de ces entreprises. Or, selon le droit international, Midmac Six Construct a bien manqué à sa responsabilité de respecter les droits humains car elle ne s'est pas assurée du comportement de ses fournisseurs. De même que l'entreprise Eversende, qui a employé ses fournisseurs, Blue Bay et Seven Hills, elle n'a pas démontré qu'elle avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour identifier ces risques et y remédier. Voilà, alors c'est un échec, l'échec du Qatar à faire respecter les droits humains dans son pays. Le système de la kafala, qui est un système de parrainage en fait, est le cœur du problème de l'exploitation de ces travailleurs migrants. Un employé ne peut pas changer de travail ou quitter le pays sans l'autorisation de son parrain ou son sponsor, qui est en général son employeur. En octobre 2015, le gouvernement a annoncé la réforme de ce système par une loi qui doit entrer en vigueur en décembre 2016, qui devait rentrer, mais les travailleurs devront toujours obtenir l'accord de l'employeur pour quitter le pays. Donc il y a eu quelques petites avancées dans la loi, mais en réalité, ces normes ne sont pas assez appliquées. Le comité s'adresse en priorité aux principaux contractants pour faire appliquer ces standards. Or, ces normes doivent bien être respectées par toutes les entreprises opérant au Qatar, même les plus petites. Par ailleurs, l'application de ces normes repose trop sur des audits réalisés par les entreprises elles-mêmes, ce qui ouvre la porte à des dissimulations. Donc Amnesty met un carton rouge pour la FIFA, hein, la Fédération internationale de football, qui est le commanditaire principal des installations construites en ce moment au Qatar. Elle a donc une vraie responsabilité et doit traiter en priorité les questions de l'exploitation des travailleurs migrants. Elle se doit de demander aux autorités de mettre en œuvre des réformes cohérentes afin de protéger les droits des travailleurs. Voilà, donc il y a une pétition qui est assignée en ligne sur le site amnesty.fr. Alors, tous les citoyens peuvent le faire. Vous allez donc sur amnesty.fr, dans l'onglet « Mobilisez-vous », vous cliquez, puis vous avez signé et vous verrez cette pétition avec d'autres aussi que vous pourrez également signer et chaque signature a son poids. Voilà, alors maintenant, on va mettre une chanson de Zaz, « On ira », qui nous apporte toute sa fraîcheur.
On ira écouter Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir le thé dans les souks à Amman, on ira nager dans le lit du fleuve Sénégal et on verra brûler bombé sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto, on ira sentir Rio battre au cœur de Janeiro, on lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine et on lèvera nos verres dans le café Pushkina. Oh, quelle est belle notre chance. Les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh 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 oh. On dira que les poètes n'ont pas de drapeau, on fera des jours de fête tant qu'on a deux héros. On saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes.
dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs et l'on saura donner ce qu'on a de meilleur. Oh, quelle est belle notre chance aux mille couleurs de l'être humain, mélangées de nos différences à la croisée des destins. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Nous sommes le désert.
Voilà, une belle chanson qui remet l'humain au centre, alors qu'il est souvent traité comme un objet. On le voit dans cette guerre du Yémen, cette guerre un peu oubliée, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Et pourtant, plus de 3000 civils, dont 700 mineurs, ont été tués et au moins 2,5 millions de personnes ont été forcées de quitter leur foyer au cours de l'année écoulée. Au moins 83% de la population requiert une assistance humanitaire en urgence. La communauté internationale, elle, a réagi au conflit au Yémen de manière cynique et honteuse et continue de vendre des armes aux parties au conflit. François Hollande doit suspendre les transferts d'armes à l'Arabie Saoudite ainsi qu'à ses alliés lorsqu'ils mettent en danger des civils au Yémen. Il y a encore, une fois encore, une pétition à signer sur le site amnesty.fr. En effet, au cours de l'année écoulée, les frappes aériennes incessantes menées par l'Arabie Saoudite et les attaques lancées au sol, soit par les combattants Houthis et leurs alliés, soit par les forces anti-Houthis, ont témoigné d'un mépris choquant pour les vies civiles et porté atteinte de manière flagrante au droit international humanitaire. Elles ont également pris la forme d'attaques contre des hôpitaux, des écoles, des marchés et des mosquées, qui pourraient constituer des crimes de guerre. Les combattants Houthis et leurs alliés utilisent quotidiennement des armes imprécises telles que des mortiers dans des zones résidentielles, ce qui constitue une violation du droit international humanitaire. Les Houthis procèdent aussi à des arrestations arbitraires, des incarcérations et des enlèvements d'opposants présumés, notamment des militants et des journalistes, et mènent une campagne de répression visant des organisations non gouvernementales et des militants des droits humains dans les zones se trouvant sous leur contrôle. Le conflit s'accompagne par ailleurs d'une catastrophe humanitaire et la grande majorité des civils yéménites dépendent désormais de l'aide humanitaire car le pays connaît de graves pénuries de nourriture, d'eau propre et d'équipements médicaux. Cela est exacerbé dans les zones contrôlées par les Houthis par un blocus aérien et naval partiel limitant gravement l'importation et la livraison des carburants et d'autres fournitures essentielles. Tout au long de l'année écoulée, les États-Unis et le Royaume-Uni, de loin les principaux fournisseurs d'armes de l'Arabie Saoudite, qui est à la tête de la coalition, ainsi que d'autres États comme la France, ont continué à autoriser le transfert d'armes du type ayant été utilisé pour commettre et faciliter de graves violations, ce qui a donné lieu à une crise humanitaire sans précédent. Les partenaires internationaux de l'Arabie Saoudite ont mis de l'huile sur le feu, inondant la région d'armes, en dépit d'éléments de plus en plus nombreux, montrant que ces armes ont facilité des crimes, et malgré le risque réel que de nouveaux équipements puissent être utilisés pour commettre de graves violations. Ils n'ont par ailleurs pas établi d'enquête indépendante internationale sur les agissements ayant détruit des milliers de vies civiles. Le flux d'armes irresponsables et illégaux à destination des parties en conflit au Yémen contribue directement à des souffrances civiles à très grande échelle. Il est temps que les dirigeants mondiaux cessent de faire primer leur intérêt économique sur le reste, et que le Conseil de sécurité des Nations Unies impose un embargo complet sur les transferts d'armes voués à être utilisés au Yémen. Le 25 février, le Parlement européen a réclamé un embargo sur les armes en provenance de l'Union européenne destinées à l'Arabie saoudite, qui est à la tête des forces de la coalition. Le 15 mars, le Parlement néerlandais a également demandé au gouvernement de suspendre les transferts d'armes vers l'Arabie saoudite. Le Conseil de sécurité n'ayant imposé aucun embargo, nous exhortons tous les États à veiller à ce qu'aucune partie au conflit au Yémen ne reçoive, directement ou indirectement, des armes, des munitions et des équipements ou technologies militaires susceptibles d'être utilisées dans ce conflit. Ces restrictions doivent aussi s'appliquer au soutien logistique et financier pour de tels transferts. Voilà, le premier client de la France, c'est l'Arabie saoudite. Elle doit livrer au pays 2,8 milliards d'euros de matériel de guerre dans les prochains mois. Donc si vous pouvez nous aider en allant signer la pétition sur le site amnesty.fr. Voilà, on va maintenant passer une autre chanson de Zaz pour nous redonner un peu de la bonne humeur, malgré ces nouvelles dramatiques. La chanson « Si ».
Si j'étais l'ami du bon Dieu, si je connaissais les prières, si j'avais le sang bleu, le don d'effacer tout refaire, si j'étais reine ou magicienne, princesse, fée, grand capitaine d'un noble régiment, si j'avais les pas d'un géant, je mettrais du ciel en misère toutes les larmes aux rivières et fleurirais des sables fins même l'espoir. Je sèmerais des utopies, plier serait interdit. On ne détournerait plus les regards si j'avais des mises. Les dessins, le talent, la force ou les charmes des maîtres des puissants. Si j'avais les clés de leur âme, si je savais prendre les armes au feu d'une armée de titans, j'allumerais des flammes dans les rêves éteints des enfants. Je mettrai des couleurs aux peines, j'inventerai des édens, au pas de chance, au pas d'étoiles, au moins que rien. Mais je n'ai qu'un cœur en guenille et de main tendue de brindille, une voix que le vent chasse au matin. Mais sinon,
voilà encore une très belle chanson de Zaz qui nous parle d'utopie et on peut rêver d'utopie et souvent ce sont les utopies qui font avancer les choses. On va maintenant parler des réfugiés et je vous conseille tous d'aller sur le site de Rue 89. Vous pourrez voir en avant-première le film qu'a réalisé Yolande Moreau sur le problème de Calais et de Grande-Synthe. Son film s'appelle « Nulle part en France ». Il est remarquable et il nous montre vraiment la situation de ces gens et comment aussi d'autres personnes viennent en aide et font honneur à l'être humain. Et on se rend compte à nouveau que c'est la société civile à la fois qui est en première ligne dans les conflits, mais c'est aussi la société civile qui vient en aide en premier à la place des États. Et c'est très beau, mais c'est quand même dommage que les États soient toujours en retrait. Il est donc allez voir ce film sur rue 89. Elle termine en disant si J l'Europe, si elle abandonne l'esprit pour la peur. C'est très bien. Et quand on voit le scandale qui a éclaté de tout cet argent, ce qu'ils appellent le Panama Papers, là, tous ces gens qui ont plein d'argent et qui, en plus, détournent pour ne pas payer d'impôts, alors que cet argent d'impôts pourrait permettre d'accueillir les migrants qui fuient la guerre, qui fuient la mort, de leur donner des conditions de vie dignes, c'est révoltant. Et Amnesty, on est tous des révoltés. Voilà, alors vous avez sur le site d'Amnesty une pétition qui est adressée au président du Conseil européen, Donald Tusk, et au ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, et qui demande l'accueil des réfugiés qui sont bloqués en Grèce. Donc des milliers de personnes sont bloquées dans ce pays dans des conditions épouvantables, livrées à elles-mêmes. Ces réfugiés manquent d'eau, de nourriture et beaucoup dorment dans le froid, dont les enfants ou les femmes enceintes, un peu comme à Calais aussi. Hein. Suite à l'adoption de l'accord scandaleux de l'Union européenne et la Turquie, les réfugiés et les migrants risquent d'être détenus en Grèce et renvoyés vers un sort incertain en Turquie. Amnesty a dit qu'on prenait les migrants comme de la marchandise dans cet accord qui se met en place. Et donc pour tout migrant qui a risqué sa vie sur mer pour aller en Grèce, ces migrants sont renvoyés en Turquie, qui n'est pas forcément un pays sûr. Et en fonction du nombre de migrants qui sont renvoyés, l'Union européenne accueille des réfugiés syriens. Voilà, donc c'est un troc. L'être humain devient une marchandise. Alors dans cette pétition, on demande de tout mettre en œuvre afin d'accueillir en urgence des demandeurs d'asile se trouvant en Grèce, notamment en relocalisant un grand nombre de personnes sans appliquer de critères de sélection restrictifs, en facilitant le regroupement familial et en permettant des demandeurs d'asile actuellement en Grèce d'obtenir auprès de représentations des pays membres des visas les autorisant à poursuivre leur trajet en toute légalité. De proposer d'autres itinéraires sûrs et légaux aux réfugiés afin qu'ils ne soient pas forcés de se lancer dans des traversées maritimes dangereuses pour se mettre en sécurité en Europe. D'engager les autorités grecques à améliorer de toute urgence et de manière significative les conditions d'accueil en veillant à ce que les réfugiés et demandeurs d'asile aient accès à des lits, de l'eau potable, des sanitaires, des soins médicaux et une sécurité personnelle et à ce que des informations adéquates quant aux procédures de demande d'asile, aux programmes de réinstallation et de regroupement familial de l'Union européenne leur soient fournies. La crise des réfugiés est une situation exceptionnelle. Elle requiert de l'Union européenne une réponse humaine, destinée d'abord à protéger et accueillir ces personnes qui fuient les guerres et la persécution. C'est ce que disait Yolande Moreau hein, quand elle parle de l'esprit de l'Union européenne. L'esprit, c'était ça. Et si on l'abandonne pour la peur, l'Union européenne va mourir et c'est vraiment dommage. Voilà, donc c'est une lettre qui se trouve sur le site d'Amnesty que vous pouvez envoyer au président du Conseil européen et au ministre de l'Intérieur. Voilà, sur l'accueil des réfugiés. Alors maintenant, on va passer une chanson des Enfoirés sur l'amitié. Voilà, je la dédie à une amie qui est un peu dans la peine.
Sont venus des nuages avec soleil et pluie comme simple bagage. Ils ont fait la saison des amitiés sincères,
la plus belle saison des quatre de la terre.
Ils ont cette douceur des plus beaux paysages
et la fidélité des oiseaux de passage.
Le cœur est gravé, une infinie tendresse.
Mais parfois dans leurs yeux se glisse la tristesse.
Alors ils viennent se chauffer chez moi et toi aussi.
Repartir au fin fond des nuages
et de nouveau sourire à bien d'autres visages.
Donner autour de toi un peu de ta tendresse
lorsqu'un d'entre eux voudra te cacher sa tristesse.
Comme l'on ne sait pas ce que la vie nous donne,
qu'il se peut qu'à mon tour je ne sois plus personne.
S'il me reste un ami qui vraiment me comprenne,
j'oublierai à la fois mes larmes et mes peines.
Alors peut-être je viendrai chez toi je ne sois plus personne. S'il me reste un ami qui vraiment me comprenne, j'oublierai à la fois mes larmes et mes peines. Alors peut-être je viendrai chez toi chauffer
mon à ton
voilà, alors nous reprenons maintenant avec des bonnes nouvelles, hein, parce que heureusement, il y en a un petit peu, et puis ça montre aussi que notre action, ben, ça marche, hein, pas toujours, mais on a des avancées. Alors, en Azerbaïdjan, le 28 mars 2016, donc c'est tout récent, les autorités ont libéré Intigam Aliyev. Cette mesure était très attendue afin de réparer l'injustice faite à ce défenseur des droits humains bien connu et à tous les autres prisonniers d'opinion.
Égypte, Mahmoud Hussein enfin libre. Après plus de 2 ans de détention sans procès, ce jeune étudiant de 20 ans, désormais, a été libéré dans la nuit de 24 au 25 mars 2016 et a pu retrouver sa famille.
En Bosnie-Herzégovine, Radovan Karadžić, déclaré coupable du génocide de Srebrenica. Le verdict rendu par le tribunal pénal des Nations Unies, établi à La Haye, contre l'ancien dirigeant bosno-serbe Radovan Karadžić, reconnu coupable de génocide et d'autres crimes de droit international, représente un grand pas vers la justice pour les victimes du conflit armé en Bosnie-Herzégovine.
Devoir de vigilance des multinationales. La loi avance. Malgré les pressions de l'Association française des entreprises privées, la FEP, l'Assemblée nationale vient d'adopter en deuxième lecture la proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d'ordre.
En Norvège, une avancée historique pour les droits des personnes transgenres. Une réforme législative proposée par le ministre norvégien de la Santé pourrait changer la vie des personnes transgenres en Norvège. C'est historique.
Jean-Pierre Bemba, enfin condamné. C'est une victoire historique pour les victimes de violences sexuelles. Jean-Pierre Bemba utilisait le viol comme arme de guerre en RDC, République démocratique du Congo.
Voilà, on a eu quelques succès aussi concernant le droit des femmes. Parmi ces succès, environ 280 000 personnes vivant dans plus de 165 pays ont appelé leur gouvernement à protéger les droits sexuels et reproductifs des jeunes, notamment leur droit d'accéder à des contraceptions et aux services de santé sexuelle.
À l'issue d'un travail de pression soutenu mené par des militants locaux des droits des femmes, avec l'aide d'Amnesty International, le gouvernement du Népal a intégré la prévention du prolapsus utérin, problème de santé handicapant qui peut toucher les femmes pendant ou après une grossesse, dans son plan d'action relatif aux droits humains en juillet 2014. Cette décision a eu lieu peu de temps après que nous avons remis aux autorités une pétition signée par plus de 100 000 d'entre vous.
Quand l'Espagne a voulu rendre plus restrictive la législation sur l'avortement en décembre 2013, 133 400 sympathisants d'Amnesty International se sont mobilisés au cours des mois qui ont suivi. Et en septembre 2014, le gouvernement a renoncé aux modifications qu'il avait proposées.
L'intense travail de campagne que nous avons mené, notamment en 2014 lors du lancement de notre nouveau rapport sur le Salvador, a incité plusieurs gouvernements à agir. Le mois suivant, aux Nations Unies, l'Australie, la République tchèque, l'Islande, la Slovénie et l'Espagne ont demandé avec force au gouvernement du Salvador d'abroger l'interdiction totale de l'avortement dans le pays. Dans le cadre de celle-ci, les femmes qui font une fausse couche peuvent être condamnées à plus de 40 ans d'emprisonnement.
Vous avez été 198 000 à appeler l'Algérie, le Maroc et la Tunisie à protéger les femmes et les filles ayant subi des violences sexuelles. Lorsque nous avons présenté vos signatures aux autorités tunisiennes en novembre 2014, la secrétaire d'État chargée de la femme et de la famille et le ministre de la Santé ont promis de protéger les victimes de violences sexuelles. Jamais un tel engagement n'avait été pris publiquement.
Grâce au dévouement et à l'action des militants au Salvador, Carmen Guadalupe Vasquez a été graciée et est sortie de prison en février 2015. Elle avait été condamnée à 30 ans d'emprisonnement en 2007 pour des accusations de meurtre forgé de toutes pièces après avoir fait une fausse couche à 18 ans. Elle était soupçonnée d'avoir recouru à un avortement, ce qui est interdit au Salvador, quelles que soient les circonstances. En avril 2015, nous avons remis aux autorités une pétition signée par 300 000 d'entre vous, vous réclamant la fin de l'interdiction de l'avortement au Salvador.
Vous avez contribué à convaincre les Irlandais que les femmes ayant besoin d'avorter ne sont pas des criminels.
En décembre 2015, le Burkina Faso a adopté une stratégie nationale et un plan d'action de 3 ans pour prévenir et éliminer les mariages d'enfants dans le pays. Il reste encore beaucoup à faire, mais il s'agit là d'une première étape vers l'éradication définitive de cette pratique.
Vous êtes des milliers à avoir brisé le silence entourant les questions liées au sexe, aux relations et à la reproduction. Plus de 100 000 jeunes ont pris l'initiative d'engager des conversations abordant des sujets traditionnellement tabous, tels que le harcèlement sexuel dans les établissements scolaires, le viol, les mariages d'enfants et la sexualité. Grâce au support d'informations produits par Amnesty International et aux ateliers de formation mis au point dans le cadre de la campagne « Mon corps, mes droits », plusieurs milliers de personnes se sont mobilisées contre les attitudes discriminatoires et la violence liée au genre. Des jeunes ont agi par le biais d'ateliers, de vidéos et de débats, ainsi qu'en utilisant le théâtre, la poésie, la chanson et la danse. Dans les zones rurales du Zimbabwe, certains ont ouvert des centres d'émancipation dans les écoles, qui constituent un espace où les jeunes filles peuvent évoquer en toute sécurité le sexe, les relations et la grossesse.
Pollution au Nigeria, de nouvelles poursuites contre Shell. De nouvelles actions ont été annoncées contre le géant Shell, le défaut d'entretien et de protection des oléoducs pourrait exposer la compagnie pétrolière à une série de nouvelles demandes d'indemnisation de la part de nombreuses communautés du delta du Niger.
Voilà pour ces bonnes nouvelles. Nous allons maintenant passer une chanson de 3 chanteurs québécois. Quand les hommes vivront d'amour. Bon, l'enregistrement est ancien, donc... Pas d'une qualité exceptionnelle, mais la chanson, elle, est exceptionnelle. Et puis, bon, je la dédie à une amie qui est québécoise.
Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Les soldats seront troubadours, mais nous, nous serons morts, mon frère.
Dans la grande chaîne de la vie, où il fallait que nous passions, où il fallait que nous soyons.
laisse partir. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Les soldats seront troubadours, mais nous nous serons morts, mon frère.
Chaîne de la vie, pour qu'il y ait un meilleur temps, il faut toujours quelques perdants. De la sagesse ici-bas, c'est le prix.
Espérons qu'un jour les hommes vivent d'amour. On va maintenant, pour terminer notre émission, parler des activités de groupe dinois. Nous avons donc organisé un ciné-débat au Ciné-Étoile autour du film de Pete Vaclav, Janeta, qui parle de la discrimination des Roms en Tchéquie et qui explique un peu aussi pourquoi ces personnes viennent chez nous parce qu'elles sont menacées, mais physiquement, elles subissent une discrimination terrible. Et en fait, c'est un peu dans tous les pays, hélas, qu'elles subissent ça. Il y avait 40 personnes, ce qui est pas mal hein, pour un film qui est assez difficile et qui est porté par des acteurs qui sont des Roms, qui sont en fait pas des acteurs professionnels, hein, pas du tout, ce sont des gens qui vivent ces situations et notamment cette femme qui joue le rôle de Janeta qui est exceptionnelle et qui a un désir de s'en sortir malgré toutes les difficultés qui est remarquable et vraiment elle porte ce film de façon exceptionnelle. Donc ceux qui ont pu assister à ce film ont dû ressentir cette force qu'il y avait en elle. C'était très beau. Alors l'année prochaine, on pense à nouveau participer à ce festival hein, qui s'appelle Au cœur des droits humains, qui dure tout le mois de mars dans toute la région PACA et qui permet, l'objectif d'Amnesty en créant ce festival, c'est de montrer des films bien sûr au grand public, mais de faire des débats et de s'appuyer sur ces films pour parler de ces problématiques des droits humains et du combat nécessaire pour qu'il soit respecté partout dans le monde. L'année prochaine, on envisage de tourner aussi notre action sur le festival auprès des scolaires, des lycéens notamment. Et nous pensons que nous aurons des films à passer directement dans les lycées. Et puis d'autres films où les lycéens pourraient venir au cinéma de Digne. Alors, une activité qui va bientôt arriver, qui est traditionnelle à Digne, c'est la foire aux livres d'Amnesty International. Elle aura lieu à la fin du mois, le vendredi 29 avril 2016, de 14h à 19h30, et le samedi 30 avril, de 9h à 18h, non-stop toute la journée, dans la salle de l'Atrium, qui se trouve à côté de la mairie de Digne, près du marché. C'est très important pour nous. Alors ça nous demande beaucoup d'efforts parce que c'est physique pour porter tous ces livres et les installer, les ranger pour que les gens aient plaisir à venir les consulter et les acheter, hein, parce que ces livres nous sont donnés tout au long de l'année par des sympathisants d'Amnesty, hein, et puis les gens viennent les acheter à prix modique. Et tout cet argent récolté, comme disait Martine en début d'émission, nous permet de financer le mouvement, puisque Amnesty est une des rares associations à ne demander aucune subvention d'aucun État, puisque nous interpellons justement les États, et d'aucune entreprise internationale, aucune entreprise, puisque nous interpellons, comme vous avez vu pour le Qatar, les entreprises en leur demandant des comptes. Hein. Donc, on se doit de rester complètement indépendant et de pouvoir demander des comptes à tous les États, à toutes les entreprises, quelles qu'elles soient. Et c'est pour ça que le financement pour payer tous nos chercheurs, tous nos dossiers, tous nos rapports, le financement se fait uniquement par les dons des sympathisants, les cotisations des membres et puis les cotisations, comme l'expliquait Martine, des groupes d'Amnesty. Voilà pourquoi nous organisons ces foires aux livres. En plus, les gens qui viennent lire sont toujours sensibles aux droits humains et rares sont ceux qui ne signent pas les pétitions que nous leur proposons. Donc voilà, je vous rappelle les dates. Le vendredi 29 avril 2016 de 14h à 19h30 et le samedi 30 avril de 9h à 18h dans la salle de l'Atrium de Digne-les-Bains. Vous pouvez venir apporter des livres aussi si vous voulez nous en donner, hein, ces jours-là. Il y a des gens d'ailleurs qui régulièrement viennent et puis nous ramènent les livres qu'ils nous ont achetés la fois d'avant et en reprennent d'autres. Donc c'est une manière pour eux d'avoir de la lecture à prix modique et puis en même temps de nous aider. C'est un soutien qui est important. Alors n'hésitez pas, hein, si vous voulez nous apporter des livres ce jour-là. Et puis venez nombreux, on essaiera de bien arranger la salle et puis vous verrez que chaque fois nous avons énormément de livres nouveaux et donc vous trouverez sûrement parmi tous ces milliers de livres votre bonheur. Voilà pour cette information et nous vous quittons avec plaisir et nous vous retrouverons le mois prochain.
Donc on se retrouve le dernier lundi du mois de mai. C'est
voilà,
ça.
On fera ça.
Voilà. Ouais. Lundi 30 mai, donc de 16h30 à 17h30 à peu près. Merci Régis. Merci Martine.
Merci à vous.
Au revoir. On va se quitter peut-être avec une autre chanson de Renaud. Pourquoi pas Morgane de toi ?
Allez, bien sûr.
Il veut te piquer ta pelle et ton seau, ta couche culotte avec les bons becs dedans. Lolita, défends-toi, fous-y un coup de râteau dans le dos. Attends un peu avant de te faire emmerder par ces petits machos qui pensent qu'à une chose, jouer au docteur non conventionné. J'y ai joué aussi, je sais de quoi je cause. Je les connais bien, les playboys des bacs à sable. Je draguais leur mère avant de connaître la tienne. Si tu les écoutes, ils te feront porter leur cartable. Heureusement que je suis là, que je te regarde et que je t'aime. Lola, je suis qu'un fantôme. Quand tu vas où je suis pas, tu sais, maman, que je suis Morgane. Comme j'en ai marre de me faire tatouer des machins qui me font comme une bande dessinée sur la peau. J'ai écrit ton nom avec des clous dorés, un par un planté dans le cuir de mon blouson, dans le dos. Seule gonzesse que je peux tenir dans mes bras, sans démettre une épaule, sans plier sous ton poids. Tu pèses moins lourd qu'un moineau qui mange pas, déploie jamais tes ailes, Lolita t'envole pas. Avec tes miches de rat, qu'on dirait des noisettes, et ta peau plus sucrée qu'un pain au chocolat, tu risques de donner faim à un tas de petits mecs quand t'iras à l'école, si jamais t'y vas. Lola, je suis qu'un fantôme quand tu vas où je suis pas. Tu veux que je t'achète un ami Pierrot, hey. Les bébés ça se trouve pas dans les magasins, et je crois pas que ta mère voudra que je lui fasse un petit dans le dos. Ben quoi Lola, on n'est pas bien ensemble. Tu crois pas qu'on est déjà bien assez nombreux? T'entends pas ce bruit, c'est le monde qui tremble sous les cris des enfants qui sont malheureux. Allez viens avec moi, je t'embarque dans ma galère. Dans mon arche, y'a de la place pour tous les marmots. Avant que ce monde devienne un grand cimetière, faut profiter un peu du vent qu'on a dans le dos. Lola, je suis qu'un fantôme quand tu vas où je suis pas. Tu sais, maman, que je suis.